Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Ça va ce matin? Nous sommes le 13 septembre. Ah, gloire à Dieu, je suis content. Ce matin, nous avons fait une lecture. Nous avons prié, toute la communauté a prié ce matin à 8h42 parce que c'était le changement de lune. Vous savez que nous prenons en considération ce que la Bible dit à ce sujet et nous avons lier les ennemis qui avaient concocté les plans derrière leurs portes et nous les avons repoussés derrière leurs portes. Ils sont heureux ceux qui poussent leurs ennemis derrière leurs portes. Amen. Amen. Et nous l'avons fait au nom de Jésus. C'est toujours des moments merveilleux de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous faire une lecture dans le livre de Doctrine et Alliance au chapitre 130 et au verset 18. Quel que soit le degré d'intelligence que nous atteignons dans cette vie, il se lèvera avec nous dans la résurrection. C'est magnifique. Et si, par sa diligence et son obéissance, une personne acquiert dans cette vie plus de connaissances et d'intelligence qu'une autre, elle en sera avantagée d'autant dans le monde à venir. Il y a une loi irrévocablement décrété dans les cieux avant la fondation du monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce message de ce matin, c'est la suite de ce que je vous ai enseigné vendredi soir. Je vous parlais d'arbres qui ne portent pas de fruits. Le fruit d'un arbre, c'est, pour un arbre fruitier, c'est normal, n'est-ce pas? Et le fruit qu'un arbre porte, il a en lui-même des semences qui vont elles-mêmes, à leur tour, produire des nouveaux arbres qui vont produire des nouveaux fruits. Hein, quand je vais en Afrique et que je prêche l'évangile, quand quelqu'un est sauvé, c'est un fruit. Et dans ce fruit, il y a ce qu'il faut pour que d'autres personnes soient encore sauvées. Et nous créons des églises, et ça grandit, et des milliers, des milliers. Quand on arrivera devant le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on sera étonné de voir le nombre de personnes qui ont été sauvées au travers de notre ministère, et des fruits innombrables qu'on a portés. On ne s'en rend même pas compte. Moi, je vois des centaines de mains qui se lèvent dans les réunions, et je dis gloire à Dieu, je suis très content et tout. Je suis très conscient qu'il y en a aussi qui ne vont pas continuer à marcher avec Dieu, mais je suis conscient qu'il y en a qui vont tenir, et il y en a qui tiennent, et on voit les églises qui grandissent, et c'est magnifique, mais on ne sait pas toutes les répercussions que cela peut avoir. Et on verra ça au jour où nous serons face à Dieu, et où les gens viendront vers nous en disant « C'est grâce à toi parce que le frère Boubou machin m'a prêché l'évangile, mais c'est toi qui l'avais prêché l'évangile. » Et moi je dirais « Oui, mais ce n'est pas complètement ma responsabilité, c'est parce qu'aussi il y avait des frères et sœurs au château sanctuaire qui donnaient fidèlement leur dîme et qui m'ont permis de pouvoir venir là dans votre pays afin de vous prêcher l'évangile. Amen. Donc nous aurons tous notre récompense. Gloire à Dieu. » Mais je vous parlais d'arbres qui ne portent pas de fruits. Bon, je vous parlais aussi de tiges inutiles sur la vigne. Je ne me rappelle plus comment s'appellent ces tiges qui poussent sur la vigne. Je sais plus, j'arrive plus à me rappeler du nom. Enfin, peu importe. Vous savez ce que c'est ces grandes tiges qui poussent comme ça. Et puis qu'il faut couper. C'est des tiges qu'il faut couper parce qu'elles se nourrissent, elles se gavent de la sève qui devrait normalement nourrir les fruits de la vigne. Et puis donc, on les coupe. Pardon ? Oui, les rejetons. Michou me disait un autre mot hier, les gourmands. Je trouve que c'est pas mal aussi, les gourmands. Ça bouffe, mais ça fait rien. Je crois que c'est ça, les gourmands. Hein? Les dévorants, chez vous, ça se dit les dévorants. Mais nous, chez nous, en Suisse, on a un autre mot, mais j'arrive pas à me rappeler. Mais c'est pas grave. On a tous compris de quoi il s'agissait. Je vous parlais aussi des arbres. Jésus dit que la parole, enfin tout ça, c'est comme un arbre, une semence qui donne un arbre, et puis qu'ensuite il y a les oiseaux qui viennent sur cet arbre, tout le monde dit Alléluia, il y a les petits oiseaux qui viennent, moi je dis pas Alléluia, les petits oiseaux ça piaille, et ça salit l'arbre, c'est désagréable, oui c'est mignon si vous voulez les petits oiseaux, mais c'est aussi eux qui viennent manger, n'est-ce pas, les fruits de l'arbre, et c'est pas bien, donc il faut comprendre cette parabole. Bref, toutes ces paraboles de Jésus nous parlent d'une certaine catégorie de gens qui entreprennent de sauver le monde sans prendre le moindre risque. C'est bizarre, hein? Ils entreprennent de sauver le monde dans leur salon, parce qu'ils savent pertinemment que dehors, on les trouvera ridicules, malgré les propositions soi-disant concrètes qu'ils ont, n'est-ce pas, pour sauver le monde. Et chacun y va de sa théorie personnelle sur absolument tout, n'est-ce pas? Et chacun est persuadé que sa vérité est la seule qui compte. Est-ce que je vous ai déjà dit que chez nous, nous sommes les détenteurs de toute la vérité? Jamais. 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 Ça ne veut pas dire que chez nous, nous sommes les détenteurs de mensonges, mais nous ne pouvons pas prétendre détenir toute la vérité. Alors vous en avez qui disent, Jésus revient le 14 ou le 15 septembre 2015. Eh bien, c'est demain après-demain, donc on va voir. Hein? C'est archi faux. D'autres disent, Michel Jonton et toute son équipe vont mourir avant la fin de l'été. On est le 13, donc ça fait, il nous reste moins de 10 jours. Eh bien, on verra. D'autres disent, l'Antichrist, c'est William, le fils de Lady Di. C'est le rouquin, là. N'importe quoi. D'autres disent, des milliers de personnes vont venir devant chez nous pour se convertir. D'autres disent, Judas va ressusciter, ce sera lui le faux prophète. Et c'est Alexandre le Grand qui va ressusciter et qui sera l'Antichrist. Et il appuie tout ça avec des versets bibliques et des calculs savants. C'est merveilleux. D'autres disent que Hillary Clinton sera l'Antichrist. Hillary Clinton, l'homme du péché. Les fadas. Et puis, vous avez les triades, et puis, vous avez la lune rose, et puis, vous avez Nibiru, et puis. C'est de la masturbation spirituelle. N'ayons pas peur des mots. Ils se font plaisir tout seuls dans leur salon ou devant leur frigidaire. Et ça va être de plus en plus la débâcle. Ils passent des nuits et des jours à bavarder sans jamais accepter la seule réalité que recouvre une idée, une pensée. Une idée, bonne ou mauvaise, n'existe que lorsqu'on se met à la mettre en pratique. Voilà. C'est ça. Vous voyez, Dieu a dit, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous l'avons rencontré, son esprit vit en nous. Et eux, ils sont toujours en train, ils croient que c'est nécessaire de continuer toujours à le chercher, et puis pour des choses inutiles. À quoi ça nous sert de connaître la date du retour de Jésus pour enlever son Église? À quoi ça nous sert-il? À rien du tout. Ils disent, oui, mais Noé, il a su 7 jours à l'avance. Oui, c'est vrai. Mais il fallait bien qu'il sache quand c'était le moment de rentrer dans l'arche, parce que sinon il aurait peut-être été dehors, et puis, n'est-ce pas, il aurait été embêté de rester dehors de l'arche après l'avoir construit. Alors Dieu lui a dit, rentre, parce que dans 7 jours, je ferme la porte. Ok, d'accord, il est rentré. Mais nous, nous sommes déjà rentrés dans l'arche. Amen. Nous sommes déjà rentrés dans l'arche parce que c'est ça, se préparer. C'est rentrer dans l'arche. Et rentrer dans l'arche, c'est quoi? C'est rentrer dans la véritable Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire être au plus près de ce que la Bible enseigne au sujet de qu'est-ce que c'est l'Église. L'Église, c'est pas ces réunions que vous voyez à gauche, à droite, où les gens se connaissent même pas, où vous devez prendre rendez-vous 6 mois à l'avance pour rencontrer le pasteur. Et puis, où vous êtes juste bon à être tondu avec, n'est-ce pas, tout multicollecte et compagnie. La véritable Église, c'est ce que la Bible dit, c'est la communauté. Et se préparer, eh bien, c'est vivre la communauté, c'est-à-dire vivre ce que Dieu a rétabli, vivre ce que Dieu a dit de faire. Quand l'Église a commencé, c'était une communauté. Amen. Et c'est ça, quand on est en communauté, alors on a des caractères différents, des origines différentes, des cultures différentes, et puis ça nous dresse, ça nous construit, ça nous édifie de vivre ensemble. Et je sais de quoi je parle, ça fait depuis 77 que je vis comme ça. Alors que ces gens-là soient finalement pragmatiques, parce que ça leur semble trop simple d'accepter que la vie, c'est un acte de foi, c'est-à-dire de vivre ce que la Bible dit de vivre. Ça leur semble trop simple, non? Eux, ils passent des heures à chercher des trucs qui servent à rien. synoptique des animaux, des trois, des quatre animaux de l'Apocalypse. Ah ouais. Bon. C'est bien gentil, mais ça ne sert à rien du tout. Et d'ailleurs, vous trouvez ça dans toutes les bonnes Bibles. Vous avez toutes les explications de ce que c'est que les quatre animaux. Seulement voilà, on a un prophète aujourd'hui qui nous a dit c'est pas ça. Les quatre animaux de l'Apocalypse, ce sont les quatre esprits qui ont agi pendant le temps de l'Église, sous les quatre premiers sceaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez écouter? Ce que les théologiens à peine convertis disent ou ce que le prophète a dit? Amen. Alors qu'ils soient pragmatiques, ces gens, qu'ils aillent là où sont les pécheurs, qu'ils démontrent la puissance de Dieu publiquement et qu'ils portent du fruit, qui aura en lui-même les semences capables de porter aussi du fruit. C'est ainsi que le fruit demeure. Amen. Chaque chrétien qui est vraiment en communion avec Dieu doit être à même de contrôler consciemment ses propres conditions, ses propres limitations et ses propres pouvoirs quand il veut, quand il peut percevoir le but de son existence. Nous devons connaître le but de notre existence. Pourquoi on est là? Mais ils n'avancent pas. Ils ont perdu leur capacité de s'approprier ce dont ils ont besoin pour leur propre croissance. Ils ne croissent pas, ils ne se multiplient pas, parce qu'ils ne savent pas pour quelles raisons ils sont sur la terre. Nous, nous savons pourquoi la communauté existe sur la terre. Nous savons qu'elle ne va pas grandir. Nous savons qu'on n'aura jamais 4000 personnes dans la communauté. Nous savons, Dieu nous l'a dit. Nous sommes juste une petite Église témoin que c'est possible de vivre en communauté. Et ça fait depuis 1977 que ça existe. Et nous sommes là pour pouvoir faire de l'évangélisation en masse en Afrique. Et ça fait combien d'années qu'on le fait? 15 ans. Et on a publié des livres et on a un site internet pour informer. Et des milliers de personnes sont informées et apprennent. J'ai reçu encore aujourd'hui, cette semaine des remerciements pour les prières exaucées. Dieu exauce nos prières aussi. Amen. Les gens nous envoient des requêtes de prières. On prie pour eux et ils sont exaucés. Et ça nous réjouit. Ils ne savent pas pour quelles raisons ils sont sur la terre. Ils se croient baptisés, immergés dans le Saint-Esprit parce qu'ils parlent en langue. Le prophète a dit non, il n'y a pas encore de baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une illusion des pentecôtistes. Il y a juste eu une restauration des dons, mais il n'y a pas encore eu le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus dit que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Où sont ces témoins? Tous ces gens qui, soi-disant, sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui parlent jamais de Jésus à personne. C'est des témoins de quoi? Et un témoin est pour du fruit. Il y a des gens qui se convertissent, qui changent de vie, qui sont transformés, qui sont guéris, qui sont délivrés. Et Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont prédestinés au salut. On est obligé de créer des nouvelles églises chaque année avec le Père Nicolas là-bas. Et puis ça porte un fruit formidable puisque maintenant il va être élu député. Ça va lui ouvrir plein de portes, on va pouvoir en créer encore plein d'autres. On aura plus de facilité. Gloire à Dieu. Ça c'est pas de la masturbation spirituelle. Ça c'est productif. Quand avez-vous conduit une personne à la repentance et à la nouvelle naissance? Alors, Dieu sait que tous ne sont pas évangélistes. C'est sûr, bien sûr. Mais tous sont témoins sur leur lieu de travail, à l'école et partout. Là où sont, parce que les pécheurs sont partout. Si vous ne savez pas parler, c'est très possible. Vous pouvez au moins donner un évangile ou un traité. 600 000 personnes se sont converties en Europe grâce à un traité donné à une gitane sur le marché. C'est un jeune, je crois, un bonhomme qui a donné un traité pour inviter une bonne femme à venir à l'église. Et c'était marqué « Prière pour les malades ». Et cette femme, c'était une gitane. Elle a mis le papier dans sa poche et quand elle est arrivée chez elle, elle a demandé à quelqu'un « Tu peux me lire ce qui est écrit ?» Et l'autre l'a lu, puis c'était marqué qu'on priait pour les malades. Et elle, elle avait un fils qui se mourait à l'hôpital. Elle a dit, ben je vais y aller. C'est une gitane. Et elle est allée. Et le pasteur a dit, mais pourquoi vous pleurez, ma petite dame? Elle a dit, j'ai mon fils qui meurt à l'hôpital. médecin m'a dit qu'il faut que je me console sur mes autres enfants, parce qu'il va mourir. Et bon, on va y aller, le pasteur a dit, on va y aller, on va aller prier pour votre fils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mans. On va y aller. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont prié pour cet homme, Mans. Et il a été guéri. Alléluia! Un traité. Et vous savez comment c'est chez les gitans, c'est comme chez les arabes, le téléphone arabe. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, mais il y avait les téléphones arabes. Eh bien, en moins de temps qu'il faut pour le dire, toute la France savait qu'il y avait eu un miracle. Le pasteur, le Cossack, qui était un petit pasteur d'une petite église au Havre, a commencé à être touché par ces gens. Il a voulu les aider. Il est rentré là-dedans. Il s'est fait mal voir par les pentecôtistes qui l'ont finalement foutu à la porte de leur dénomination religieuse. Ils sont gentils, les pentecôtistes sont adorables. Je les aime. Lèche-botte blues, je fais du lèche-botte blues. Non, je les aime bien, mais ils sont limités. Et alors ce pasteur Le Cossack est allé partout à vélo. C'est un asthmatique. Il n'a pas pris son asthme comme excuse pour dire « je ne peux point le faire, je voudrais bien, mais je ne peux point ». Non, il est allé. Des fois, il est tombé au bord de la route avec son asthme, des crises et tout. Mais il allait, quand j'y tends, il les évangélisait, il les baptisait. 600 000 personnes se sont converties comme ça. Et tout ça, ça a commencé par un traité. Ça, vous pouvez le faire. Donner un traité, ce n'est pas difficile. Donner un traité, hein, ce n'est pas difficile. Mais si vous ne pouvez pas donner un traité, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez soutenir un ministère par vos dîmes, par vos offrandes, par vos prières. Ainsi, un évangéliste pourra aller grâce à vous et vous partagerez sa récompense au jour du jugement parce que vous l'aurez aidé à faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Je me rappelle toujours, on avait été chez le frère Osborne et il avait réuni plein de gens, de ses amis. Et parmi tous ces gens qui étaient là, il y avait un homme dans une chaise roulante. Et puis frère Osborne nous l'a présenté en particulier, nous a dit « Cet homme est un gagneur d'âme. Avec sa chaise roulante, il va prier dans les prisons pour les gens, prêcher l'évangile. Quand on veut, on pneu. Quand » mais c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde peut faire quand même quelque chose. Si les dîmes et les offrandes ne sont pas données, les évangélistes ne peuvent pas partir prêcher l'évangile. Ou alors, oui, ils peuvent partir. Ils vont d'abord bosser comme des malades à l'usine, et puis ensuite, ils mettent de l'argent de côté, et puis ils prennent un billet d'avion, puis ils vont prêcher l'évangile. Mais à la place d'aller bosser dans une usine comme un malade pour pouvoir avoir 800 balles pour pouvoir se payer un billet d'avion, ben, s'il y a des gens qui lui donnent l'argent pour pouvoir y aller, ben, c'est tout ça de temps gagné pour qu'il puisse aller exercer son ministère, oui ou non ? C'est de l'intelligence, ça. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre. Non, au lieu de ça, ces oiseaux qui piaillent dans l'arbre, ils discutent entre eux dans leur salon ou devant leur frigidaire au sujet de « Est-ce que c'est biblique de donner la dîme ?» C'est du crétinisme aigu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas intelligent. C'est des parasites. Voilà ce que sont ces gens, des parasites. Alors, mes frères et sœurs, rien ne peut nous atteindre si ce n'est ce qui est nécessaire à notre croissance. Pourquoi ? Parce que nous avons le bon regard. Alors, toutes les conditions, toutes les expériences, même mauvaises, qui viennent à nous, nous apparaissent à notre avantage. Parce que nous avons le bon regard. Les difficultés, les obstacles, ils vont continuer à surgir. Quand on sera là-bas, là, notre frère Olivier et notre frère Stéphane reviennent de là-bas, et ils ont vu avec Philippe et Marie-Claire, c'est sublissime. Mon Dieu que c'est beau. Wow. Enfin bon. Ouf. Eh bien, mais on aura quand même encore des difficultés, d'autres obstacles qui vont surgir, c'est normal. Mais nous absorbons la sagesse des difficultés. Elle me dira, bon, oui. Les difficultés, les obstacles sont une nourriture pour nous. On en recueille les bases de notre croissance future. Ça nous rend balèze. Faites-nous des problèmes, ça nous rend balèze. Mes frères et sœurs, nous récoltons toujours ce que nous semons, c'est mathématique. Nous gagnons une force permanente, exactement proportionnelle aux efforts requis pour surmonter les difficultés. En une difficulté, on fait des efforts et on récolte exactement la proportion de bénédiction qui va avec les efforts que nous faisons. C'est mathématique. Alors j'entends les chrétiens réciter, proclamer, confesser. C'est la grande mode maintenant. Il faut confesser. Ben oui, bien sûr, il faut confesser. Alors ils disent, l'Éternel a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Ouais. Ben ça ne fera jamais de la tête. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils confessent ça qu'ils vont être la tête. Jamais. Pourquoi? Parce que cette phrase n'est pas magique. Ils continueront d'être la queue parce qu'ils veulent ignorer l'ordre établi par Dieu, par ses bonnes lois, par ses ordonnances. Ils veulent les ignorer. Alors Dieu les ignore aussi. C'est mathématique. Dire cette phrase, « Je ferai de toi la tête et non la queue », c'est comme faire si on ne fait pas tout le reste. Priez tous les jours, ça ne changera rien du tout. Ils seront toujours la queue. Parce que les conditions inexorables de la croissance, pour être la tête et non la queue, exigent de nous que nous exercions le plus haut degré d'attraction sur ce qui est parfaitement en accord avec nous-mêmes, avec notre nature. Avec notre appel confirmé à notre sainte vocation. Et pour exercer le plus haut degré d'attraction, il faut agir avec cohérence. Il faut agir avec cohérence, pas simplement dire « Je ferai de toi la tête et non la queue ». Je connais des gens qui disent ça, je les vois chaque année, ils sont toujours la queue. Et puis tout le monde dit « Amen !» Mon Dieu. Et pour agir avec cohérence, il faut connaître, il faut savoir. Et pour pouvoir connaître et pour pouvoir savoir, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut être humble. Il ne faut pas être un « je sais tout ». Mes frères et sœurs, votre bonheur le plus élevé sera atteint au mieux si vous comprenez les lois naturelles et spirituelles et si vous coopérez consciemment avec elles, avec ces lois spirituelles et naturelles. Vous rappelez ce que je vous ai dit vendredi. Il y a des lois spirituelles qui ont été changées dans la Nouvelle Alliance, mais étant donné que les lois naturelles n'ont pas été changées, ben ça fait toujours un problème, parce qu'il faut se soumettre à tout, pas seulement aux lois spirituelles, mais aussi aux lois naturelles. Réécoutez ce que j'ai dit vendredi. Pour être rempli de puissance, pour être rempli de vitalité, il faut premièrement être rempli d'amour. Ah, l'amour. L'amour, c'est comme une cigarette. L'amour. Gna, gna, gna. L'amour dégoulinant. Hein, Lily, on en connaît une, là. On l'appelle la sœur dégoulinante. On rigole avec ça, avec la Liliane. On la voit demain au mariage de son fils. Waouh, ça va être super. Il faut prier pour qu'il fasse beau. L'amour. Est-ce qu'il a de l'amour, celui qui émonde sa vigne? Oui. Est-ce qu'il a de l'amour, celui qui arrache l'arbre qui ne porte pas de fruits? Oui. Regardons un peu qu'est-ce que c'est l'amour. C'est le produit d'une émotion. C'est pourquoi on doit contrôler nos émotions. C'est essentiel. Et pour contrôler nos émotions efficacement, pour contrôler cette émotion-là, ça passe par la raison, ça passe par l'intellect. Michel, t'es intellectuel, l'amour, c'est pas intellectuel, ça vient du cœur. Gna, gna, gna. Eh bien, vous n'avez qu'à voir tous ces gens qui s'aiment et puis qui divorcent au bout de 3 ans. Hein? Qui s'aimaient, oh, je l'aime, elle est belle, elle sent bon, comme disait William Branham. Dieu a créé la raison. L'intelligence est un don de Dieu. Il doit y avoir de l'intelligence dans votre amour. L'homme qui émonde sa vigne, il aime que sa vigne produise. Qu'elle produise quoi? Des grandes tiges, là? Non, qu'elle produise du fruit. Qu'elle produise, selon sa nature, ce pourquoi elle existe, ce pourquoi il la cultive. Alors, quand il voit ces longues tiges qui servent à rien, il les coupe par amour. Cac, ça fait bobo. Si la vigne pouvait parler, ça fait bobo. Il ne s'embarrasse pas d'émotions inutiles, il ne pleurniche pas. Oh, pauvre tige, je vous aime. Oh, je me sens coupable de vous couper. Parce que je vous aime tellement, j'aime tout. Tout ce que Dieu a créé. Je vous aime, belle tige. Ça me fait mal au cœur de vous couper. Non, il est intelligent. Il coupe. Son amour est intelligent. Il coupe. Vous comprenez? Pensez à ce paysan qui a dans son verger un arbre qui ne porte pas de fruits. Une année, 2 ans, 3 ans, 25 ans. Que fait-il? Ben, s'il est intelligent, Jésus dit, il va creuser un trou autour. Oh, l'arbre, il va se sentir déstabilisé. Oh, salaud de vigneron! Il creuse autour de moi, il me fait mal. Puis après, il fait quoi, le vigneron? Il met du fumier. Pourri de pasteur! À place de me donner la parole de Dieu, il m'engueule. Il me donne du fumier, des choses qui puent. Oh, bougre de... Enfin, je ne vais pas commencer à dire tous les gros mots que je connais, parce que ça, c'est une horreur. Mais voilà un peu, n'est-ce pas, la réaction des chrétiens. Oui, mon pasteur, il n'a pas d'amour. Il me jette du fumier dans la tronche. Qu'est-ce qu'il fait, le vigneron, quand il fait ça? Il donne une chance à l'arbre. Oui ou non? Mais si l'arbre reste le même et qu'il ne porte toujours pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Le vigneron, il le coupe par amour. Rah! Est-ce qu'il va pleurnicher sur l'arbre comme le chien d'Obélix? Il s'appelle Idéfix, le chien d'Obélix. Et Obélix, il a un chien qui n'aime pas quand on coupe les arbres. Vous connaissez la bande dessinée? Hein? Il ne faut pas lire que la Bible, il faut aussi lire Obélix, Astérix, il faut lire Mickey, il faut lire Tintin, il ne faut pas vous bloquer à être des super spirituels qui voient du mal partout, des idoles. Il y en a des gens maintenant, oh, il y a de la sorcellerie dans Walt Disney. Ouais. Bon. Est-ce qu'il va pleurnicher sur l'arbre? Oh, mon cher arbre, je te connais depuis tant d'années. J'ai tant d'affection pour toi. Ça me fait de la peine de te couper. Je peux plus. Oh non, je peux quand même pas faire ça. Non. Il lui a donné sa chance. Ça n'a rien donné. Alors il coupe. Et voilà. Circuler. Next. Oui ou non? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il aime son verger. Il aime les fruits que donne son verger. S'il a un verger, c'est parce qu'il veut des fruits. Bien sûr qu'il aime ses arbres. Bien sûr. Mais pas d'une façon inintelligente. Il n'en a rien à cirer d'un arbre qui prend inutilement de la place. Il le coupe par amour pour son verger. C'est Jésus qui dit. Il prend de la place inutilement. Il se gave, il bouffe. Il te coûte cher en fumier. Vous voyez, c'est la loi de l'amour intelligent qui lui donnera de la croissance à cet homme qui a ce verger. C'est l'amour intelligent. Connaissez-vous l'amour bête?
L'amour bébête.
Combien d'hommes et de femmes s'entichent d'une personne au risque de blesser leur conjoint? Mais je l'aime tellement. Amour stupide, amour déréglé, amour inintelligent.
Mais c'est de l'amour.
Hein, on connaît un pauvre frère, là, on prie pour lui en ce moment. Pauvre frère, il a épousé une bonne femme.
Pour le meilleur et pour le pire.
Mais là, il a vécu plus le pire que le meilleur. Hein. Elle s'est trouvée un gaillard. C'est des chrétiens, hein? Elle s'est trouvée un gaillard. Elle était vivre avec. Elle ne paye plus rien. Elle lui fait vivre un enfer épouvantable. Lui, il travaille le jour, la nuit, pour régler les dettes de sa bonne femme. Une charogne de bonne femme. Mais si vous allez vers elle, elle va vous dire
« Mais je l'aime tellement, cet homme !»
Sois fidèle à ton mari qui t'a donné des enfants. Non, non, non. Un amour inintelligent, un amour bébête, un amour stupide, un amour charnel. Il y a de l'amour charnel, il y a de l'amour inintelligent. L'amour. On vient me balancer. T'as pas d'amour. Ça dépend de quel amour vous parlez. Combien d'hommes en mal d'identité, veulent briller, veulent se faire voir et sont prêts à ruiner les autres pour avoir une place qui n'est pas la leur. Vous voyez? Combien? Il y a un amour déréglé, stupide, méchant, qui fait mal aux autres. Ne venez pas me parler d'amour sans me préciser de quel amour vous parlez. L'amour. C'est un bouquet de violettes. Quand un berger voit un loup qui s'introduit dans la bergerie, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le loup. Ou il le chasse. Il pleurniche pas. Il dit pas, « Oh, comment puis-je tuer un loup, moi qui fais partie de la SPA? Moi qui aime tellement les animaux. Ce pauvre loup, en fait, il n'y peut rien. C'est sa nature de venir bouffer mes brebis. Ça me fait de la peine de tuer ce loup. Ça me fait de la peine parce qu'en plus, il va avoir mal. Je vais lui faire bobo à ce loup.
Moi qui aime tellement les animaux. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est trop dur, la vie. Oh non, je ne ferai aucun mal à ce loup. J'ai de l'amour. »
S'il fait cela, c'est un malade mental. C'est un malade mental. L'amour peut donc nous conduire à faire du mal au loup dans certaines circonstances. Vous voyez, l'amour, c'est pas une niaiserie. À l'eau de rose, dégoulinant de bons sentiments. Quand il faut tuer le loup, point barre. Bon, alors on va laisser livrer les loups, les longues tiges, les oiseaux qui piaillent. On va revenir à nos moutons. Maintenant, la première forme adoptée par la pensée, c'est de ça dont on parle. La première forme adoptée par la pensée, c'est le langage. C'est les mots. Les mots sont importants. Pas seulement pour briller dans les salons en disant « synoptique ».
Ça veut dire quoi, synoptique?
Attends, je vais te dire, je vais t'expliquer, je vais t'étaler ma connaissance, ma super science. Alors, synoptique vient du latin. Moi aussi, je le fais de temps en temps, hein, c'est rigolo, mais bon. Les mots sont importants, les mots sont la première manifestation de la pensée. Les mots, ce sont les moyens qui transportent nos pensées. Les mots, ils mettent en mouvement, ils reproduisent la pensée vers les autres, sous forme de son, de vibration, d'énergie. Eric, il me regarde, il connaît tout ça. Hein. La pensée peut mener à toutes sortes d'actions, mais indépendamment de l'action, la pensée, elle cherche toujours à s'exprimer sous une forme visible. C'est la nature même de la pensée. Alors, si nous désirons bénéficier de conditions désirables et honorables, on ne peut pas se permettre d'entretenir des pensées indésirables et malhonnêtes. Où est-ce que je veux en venir? Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien parce que c'est important, ça peut changer votre vie. Par exemple, si vous souhaitez exprimer l'abondance dans votre vie. Moi, je viens d'une famille. Mon père et ma mère ne travaillaient pas, elles nous élevaient. Et ensuite, mon père, il travaillait le jour dans un journal qui s'appelait La Feuille d'Avis. Puis la nuit, il livrait un autre journal qui s'appelait La Tribune. Il a fait ça pendant des années. Il a acheté un terrain, c'était 5 francs le mètre carré. Maintenant, il vaut, je ne sais plus combien, des centaines de c'est fort, l'argent comme ça, le terrain, ce que ça prend comme valeur. Et puis, il a fabriqué ses propres parpaings, il a monté sa propre maison, il l'a construite, il s'est donné, il a bossé, tout. Mais on n'était pas des riches. Il achetait des sacs de ciment à la fin du mois, il faisait les comptes sur la table le dimanche après-midi avec ma mère pour voir s'il pouvait, combien de sacs de ciment il pouvait acheter, combien il pouvait acheter de ferraille pour mettre dans la dalle, etc. etc. C'était des gens intelligents. Voilà où je suis né, dans quelles conditions je suis né. Ma mère, pendant 11 ans, elle a mis le même manteau tous les hivers. Et j'avais ma tante qui venait, qui était toujours à la dernière mode. « Oh, Madeleine, t'as encore ce manteau ?»« Ben oui. »« Moi, je sais, c'est parce que vous mettez tout dans votre maison. Mais comment vous faites pour vivre dans une maison comme ça, la campagne ? Mais moi, j'aurais peur. » Ben oui, c'est chacun sa vie, hein. Mes parents, ils voulaient construire une maison. Après, ils en ont eu une deuxième, etc., etc. Et puis, voilà, ils m'ont donné le goût des belles maisons. C'est pourquoi, quand on a créé la communauté, on a voulu que la communauté habite quelque chose de beau, un château. Ça va leur faire drôle de vivre dans un HLM après. Hein. Mais nous, on voulait vivre dans quelque chose de beau. Et puis là, on a tout. Enfin bon, ça va encore être plus beau. Bon, par exemple, si vous voulez exprimer l'abondance dans votre vie, c'est pas interdit. Mais si vous voulez exprimer l'abondance, il faut que vous ne pensiez qu'à l'abondance. Et comme les mots sont uniquement des pensées qui prennent forme, vous devez faire très attention aux mots que vous utilisez. Vous devez utiliser un langage adapté à ce que vous désirez, un langage constructif, un langage harmonieux, qui sera à votre avantage, lorsqu'il va se cristalliser finalement dans la matière, dans la réalité, dans des formes bien réelles et matérielles d'abondance. Si dans vos prières pour avoir l'abondance, vous dites « Seigneur, éloigne de moi la pauvreté », vous avez tout faux. Vous avez prononcé un mot négatif. Vous comprenez? Vous direz, mais Saint-Michel, c'est pas bien ce que tu dis, c'est du New Age. Ah ouais, c'est du New Age. Bon ben, reste dans ton HLM. Continue dans ton misérabilisme. Moi, j'ai fait la preuve que ce que je dis, c'est vrai. Donc, je peux l'enseigner. Vous devez utiliser un langage constructif et harmonieux. J'entends parfois des prières très étranges. Je vais vous donner un exemple. Seigneur, tu vois mes difficultés, tu vois les dissensions dont nous sommes les victimes. Aide-nous. Alors, un, Dieu voit bien que tu es victime, Dieu voit bien qu'il y a des dissensions, Dieu voit bien qu'il y a des difficultés, il le voit. Mais dans cette prière, il y a trois mots négatifs, difficulté, dissension et quoi ? Et victime. Eh bien, ça reflète le négativisme de votre pensée, qui sort par des mots qui sont créateurs. Ça va créer quoi? Encore plus de dissensions, encore plus de difficultés, vous serez encore plus victime. Vous ne me croyez pas? Bon, ben continuez à dire des mots négatifs. Faites l'expérience, allez-y, soyez négatif, dites des choses négatives, hein, allez-y, faites-le, amusez-vous bien. Pendant ce temps, moi, je prospère. Mais pourquoi pas choisir d'autres mots? C'est un exercice, ça peut devenir un jeu. Seigneur, tu vois mon chemin, nous sommes heureux parce que tu nous conduis à bon port malgré tout. C'est la même prière, avec la même intention. Mais cette dernière prière, elle utilise deux mots positifs, heureux et bon port. Les mots chemin... Le mot chemin, c'est neutre. Le mot bon, le mot malgré tout, c'est neutre. Malgré tout, c'est neutre. Vous comprenez? Choisissez vos mots. Si je vous dis, donnez-moi un verbe d'action. Un verbe d'action. Marcher, ça c'est un verbe d'action. Voilà. Il y a des verbes d'action, puis il y a des verbes neutres qui... Voilà.
Il fait beau.
Voilà, c'est un verbe neutre, il fait beau. Nous sommes tous appelés à la maîtrise de nous-mêmes, oui ou non? Oui, bien sûr. Alors apprenons à maîtriser les mots qui expriment nos pensées. Apprenons, mais pour apprendre, il faut être humble. Alors les gens disent, oui, mais Dieu, il entend ma prière, il exauce. Ah oui? Ah oui? Alors comment ça se fait qu'on est toujours là, non? C'est un exercice. C'est un exercice, ça peut devenir un jeu amusant dont tu seras le bénéficiaire. Vos mots sont vos pensées. Et vos mots constituent les mots M-O-T-S. Vos mots constituent un pouvoir qui est invisible, qui est invincible et qui finalement va se manifester dans le monde réel sous la forme qui leur est donné selon leur nature. Selon leur nature. Dans les mots, on trouve l'histoire du passé. Notre chien Potter, j'aime beaucoup ce chien, mais est-ce qu'il connaît l'histoire de sa race? C'est même pas qu'il a un papa, une maman. Bon. Il ne parle pas les chiens. On dirait qu'il y a des tas de gens qui ne parlent pas non plus. Les mots donnent aussi l'espoir du futur. Les mots sont des messagers vivants dont proviennent toutes les activités humaines. On échange par les mots nos pensées, nos objectifs, nos désirs. La beauté des mots correspond à la beauté de vos pensées. Le pouvoir du mot correspond au pouvoir de votre pensée. Et le pouvoir de la pensée correspond à sa vitalité. Il y a une vitalité dans les mots. C'est-à-dire une vie, une énergie. Vous ne croyez pas? Vous avez raison, croyez-moi pas. Moi, je vous dis, identifiez les pensées essentielles. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est le fruit, le résultat. C'est pas l'arbre qui porte pas de fruits, on s'en fout à la limite. On fait ce qu'on peut, mais quand on voit que c'est pas possible, on le fout en l'herbe, c'est tout. Le loup, il est bien gentil, il est mignon, mais... Non, il rentre pas dans ma bergerie. Impossible. On le tue. Voilà. Pensez, identifiez les pensées essentielles. Par vos mots, la Bible dit que vous vous liez ou vous vous déliez. Réfléchissez à toutes ces choses et que Dieu vous bénisse et vous encourage en vous montrant des résultats. Déjà, on en voit pas mal, on est content, mais ça va aller de mieux en mieux, avec des obstacles à la mesure des bénédictions et de nos forces. Nous ne sommes jamais éprouvés au-delà de nos forces. Donc tout est bien, c'est bien. De quoi l'homme vivant se plaindrait-il? Allez, donnez-moi des noms. Non, donnez-moi des noms. On va se plaindre simplement de nos propres péchés, ce sera déjà pas mal. Hein? Et puis laissons les autres, ils se croient parfaits. La perfection de la septième trompette à bout filtre, bon, ben, c'est bien. Voilà, ils s'amusent bien, c'est super. Pendant ce temps, nous, on avance avec l'aide du Seigneur, en reconnaissant ses bonnes lois, ses mots, ses paroles, que nous mettons en action. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Je te remercie mon Dieu pour les pensées claires que tu mets dans nos cœurs, qui nous aident à aller de l'avant. Merci Jésus. Sois béni. Nous sommes dans la reconnaissance. Pendant que les musiciens s'approchent, nous allons louer le Seigneur. Nous allons le bénir pour tout ce qu'il nous accorde, jour après jour, après jour, après jour. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Sois béni, mon Dieu. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons. Qu'est-ce que nous pouvons chanter, les musiciens? Rocher des âges, c'est le numéro? Le 22. Rocher des âges. Peut-être vous le connaissez, vous qui êtes sur Internet. Rocher des âges, c'est un vieux chant américain qui était très bien traduit là. J'aime beaucoup.
Rocher des âges, frappé pour moi. Thank you.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.